Je me présente, donc je m'appelle Cyril Caminade. J'ai une formation de climatologue, donc je suis plutôt de l'autre côté du spectre. J'avais fait une thèse au CERFAC sur la variabilité climatique en Afrique pendant le projet AMA, donc vraiment climat en zone subsaharienne, Afrique de l'Ouest. Et depuis quelques temps, donc ça fait un petit paquet d'années que j'ai traversé la Manche pour aller travailler en Angleterre, à Liverpool. Et donc maintenant, je me suis intéressé à la modélisation épidémiologique. Donc on peut voir qu'en climat ou en épidémiologie, il y a des points communs. Les systèmes sont très complexes. Il y a des interactions qu'on essaye de comprendre, qu'on modélise d'une certaine manière. Il y a aussi des observations des systèmes qu'on a, mais qui sont assez flous, finalement, par rapport à la vraie situation. Donc il y a beaucoup de points communs. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et donc je vais vous parler de ça, donc parler de ce que j'ai fait depuis les 5-6 dernières années à Liverpool, en travaillant avec Andy Morse à l'Université de Liverpool, et Matthew Bylis, à la fois des gens qui ont un background climatique, mais aussi des gens qui ont un background épidémio assez de haut niveau vétérinaire. Donc vous voyez un petit peu la slide. Donc, je remercie pas mal de personnes, je travaille avec beaucoup de gens, je ne vais pas tous les citer. Alors pourquoi on pense que le climat va impacter sur les maladies vectorielles? Une maladie vectorielle, c'est quoi? C'est une maladie en général qui a un triptyque avec un pathogène, ça peut être un parasite, une bactérie, un virus, une hôte, donc là, un mouton, dans ce cas-là, et le virus, je crois que je l'ai tracé, c'est la fièvre à catarrhovine, et un vecteur, et dans le cas du bleu tongue, c'est des culicoïdes, c'est des petites mouches. Donc tout ça peut varier, le système peut être beaucoup plus compliqué, il peut y avoir des hôtes intermédiaires, avant d'avoir des hôtes finales, il peut y avoir plusieurs vecteurs, il peut y avoir plusieurs formes de types de pathogènes de virus, plusieurs sérotypes, donc c'est extrêmement complexe. Là, c'est une version très simplifiée. Alors pourquoi on pense que le climat va impacter sur ces maladies? En partie, entre autres facteurs. Tout simplement parce que forcément les précipitations, ça provoque les gîtes larvaires pour pas mal d'arthropodes qui vont transmettre les virus. Les températures, comme l'a montré Jean-François, vont impacter sur l'incubation des virus à l'intérieur du vecteur et d'autres paramètres, la mortalité des moustiques. Si vous vivez en plein milieu du Sahara, vous allez trouver très peu de moustiques. Si vous vivez au pôle Nord, bien sûr, vous allez aussi les chercher pendant longtemps, avant de les trouver. Donc il y a quand même des limites climatiques, il y a quand même des contraintes. Ça impacte aussi sur le pathogène, bien sûr, au niveau de la vitesse à laquelle il va se reproduire. Aussi, ça peut impacter sur l'hôte, puisqu'on vit aussi les températures, on les subit directement. Il y aura des talks là-dessus, je pense, plus tard. Par exemple, le bétail, dans certaines zones d'Afrique, qui vont devenir les plus chaudes, disons au nord, nord-nord de l'Afrique subsaharienne, il va y avoir des problèmes. J'ai pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour s'en rendre compte. Le stress en température va impacter forcément sur le bétail. Donc j'ai travaillé sur pas mal de choses depuis les 6 dernières années, je ne peux pas tout parler, je ne peux pas tout montrer. Donc j'ai donné un petit peu un sous... D'accord, super, vous m'arrêtez hein, si je me perds. Donc je travaillais sur la fièvre catarrhovine, donc ça c'était en collaboration un peu avec Serge et avec aussi Hélène, surtout, qui travaille au CIRAD maintenant à Montpellier. Travaillé sur la malaria avec Andy et d'autres personnes à l'échelle européenne et les Américains. La fièvre de la Belle du Rift, là plutôt avec des Sénégalais, j'en parlais un petit peu avec Jacques André. Plus récemment, le moustique tigre qui nous intéresse particulièrement avec ce qui s'est passé récemment. On va essayer de regarder un petit peu comment le climat pourrait favoriser une enveloppe biologique naïve du moustique. Travailler aussi sur l'encéphalite japonaise et plein d'autres choses. Je vais essayer de passer des maladies animales aussi. Donc, je vais montrer trois exemples. Je n'ai pas le temps de parler de tout. La fièvre de la vallée du Rift, donc c'est une maladie qui est une zoonose, ce qui veut dire que c'est une maladie qui peut passer la barre des espèces entre l'animal et l'homme, donc ça infecte à la fois les animaux et les humains. C'est transmis par deux types de mouches, de deux types de familles, Aedes et Culex. En général, c'est surtout une plaie pour les fermiers, puisque la Rift, en général, quand vous avez une épidémie de Rift, vous vous retrouvez avec tous les animaux qui font des avortements massifs, donc il y a beaucoup de mortalité. Et en général, les humains, nous, on devient infectés quand on rentre en contact justement avec ces matériaux infectieux. Il y a des preuves comme ça a été transmis directement par moustique, mais ça reste assez... on doute un petit peu. Les trois quarts du temps, si je crois des collègues au Kenya qui ont regardé ça, c'est souvent les manipulations de fœtus, les manipulations d'animaux morts, ou la consommation aussi de produits de viande infectée. Pour les humains, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, mais ça reste quand même un taux de mortalité relativement faible comparé à d'autres maladies, comme la peste ou Ebola. Mais bon, vous voyez qu'Ebola, on a revu les taux de mortalité à la baisse. On montre un petit peu comment on connaît les systèmes. Donc ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, mon approche, c'est que j'aime bien fouiner dans les vieux papiers, les vieux papiers entomos, les vieilles études un peu empiriques, un peu de terrain, et essayer de voir comment je peux extrapoler cette relation à une échelle plus large. Donc là, j'avais travaillé avec Jacques André, ce qu'il avait travaillé donc aussi. Il avait travaillé aussi avec des gens du CNES et des gens à Toulouse. Il avait fait beaucoup de travail là-dessus. Il avait caractérisé un profil à risque de saison des pluies, qui était une espèce de période sèche, d'une semaine à peu près, avec un gros pic de pluie assez tardif dans la saison des pluies. Et en général, il avait observé ça donc, pour le nord du Sénégal, et ça causait des épidémies de rift. Bon, ce n'est pas une condition nécessairement vraie, à tous les coups, mais ça avait l'air de bien marcher, pour certaines raisons, au niveau de la dynamique des moustiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que j'ai pris ce critère et j'ai essayé d'extrapoler, c'était un papier qu'on avait fait pour AMA, extrapoler ça à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est basé sur des données de réanalyse du centre européen sur une vingtaine ou trentaine d'années. J'ai compté combien de fois ce genre d'événement arrivait par point de grille, tout simplement, sur la zone Afrique de l'Ouest, ce que vous voyez ici en couleur, et en noir et en gradué. J'ai regardé aussi les densités d'animaux fournies par la FAO, parce que comme l'a montré Jean-François, les densités de population et les densités animales vont avoir un facteur très critique sur la même chose. Et j'ai essayé tout simplement de regarder quelle était l'intersection de ce risque. Un risque climatique naïf en couleur et un risque de densité d'animal, on va dire, en noir. Vous voyez que ça overlap un petit peu sur la zone nord du Sénégal, sud de la Mauritanie. Il y a des pixels à droite à gauche ensuite, mais bon. Si vous regardez ce qui s'est passé à l'échelle réelle, c'est des données du CDC, des données de l'OIE, il y a des cartes de l'OMS qui sont sorties récemment, ça corrobore un petit peu ça. Par construction, c'est à peu près la bonne zone. On a regardé ça un petit peu plus en détail pour la Mauritanie. Donc là, je vais vous demander de regarder plutôt la carte en haut à gauche, qui vous montre un petit peu la densité d'animal des données de la FAO que j'ai récupérées, qui sont ce qu'elles sont. Et j'ai regardé aussi 3-4 épidémies majeures en Mauritanie, qui étaient 98, 2003, 2010, 2012, avec les différentes zones que vous voyez en haut à gauche. Alors il y avait une épidémie en 2010 qui a été complètement un peu imprévue. Ça s'est passé dans le nord, dans une zone très, très éloignée. On ne sait pas trop ce qui s'y est passé, il y a eu des morts humains. C'est une épidémie, une des plus lourdes qu'il y a eu dans le nord. C'est la première épidémie répertoriée à ce jour. Donc le but du jeu, c'était de regarder, de voir si j'avais des profils de saison des pluies pour ces zones particulières qui collaient par rapport à ce qu'avait trouvé Jacques André pour le Sénégal. Donc j'ai juste essayé de regarder si ça marchait. La réponse est relativement oui. Donc c'est un petit peu compliqué, là, puisque j'ai tracé les histogrammes des précipitations pour chacune des années, de 1998 à 2012. Et la différence entre la gauche et la droite, c'est qu'une, c'est juste les précipitations, dans l'autre cas, c'est les précipitations intégrées. Donc si vous cherchez un risque climatique lié à ces espèces de sauts, période sèche, extrêmement précipitation, ça va se traduire sur le panneau de droite par une espèce d'escalier, une espèce de step, qui a été ici, qui est marqué par la bande grise que j'ai mis. J'ai aussi tracé, en cherchant dans la littérature et avec mes collègues africains, en demandant un peu d'informations, quand a été répertoriée la première infection animale et quand a été répertoriée la première infection humaine. Alors là, c'est pareil, il y a aussi beaucoup d'incertitudes, puisque des fois, les gens arrivent après la guerre. On ne peut pas vraiment savoir ou démontrer A plus B que ça a été vraiment la vraie infection. C'est ce que rapporte l'OIE. Tout simplement. Peut-être qu'il y a eu des cas qui ont été oubliés dans le Nord, par exemple. Dans le cas de 2010, je discutais avec Stéphane Delarocque dans un meeting, il m'a dit que l'épidémie était beaucoup plus lourde. C'est juste qu'ils sont arrivés après, la guerre, ils auraient pu. Hein. Il y a eu des gens qui sont morts, qui n'ont pas été comptabilisés dans les statistiques aussi. Donc il y a aussi des incertitudes sur nos observations. Donc ça a l'air de marcher. Grosso modo, il y avait une espèce de lien. Il y avait 3 semaines à peu près. La première infection animale est relativement rapide après ce genre d'événement. La première infection humaine, il y a du lag. Bon, après, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu, à peu près lors de 3 semaines. Il y avait aussi, donc, si on réapplique cette méthode et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe d'une année sur l'autre, il y a aussi beaucoup de fausses alarmes, puisqu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Les animaux aussi, une fois qu'ils sont infectés, peuvent récupérer, développer une immunité, ce qui fait que l'année qui suit, même s'il y a un risque climatique naïf, ils ne vont pas forcément montrer des signes cliniques. Donc, c'est très compliqué. On va revenir sur le moustique du tigre, qui est peut-être quelque chose qui vous intéresse plus, surtout en France, et ce qui s'est passé récemment. Bon, c'est un vecteur de plusieurs pathogènes, les deux plus importants étant la dengue et le chikungunya. Il y a eu 2 cas en France en 2010 et en 2014. Il y a eu une grosse épidémie aussi en Italie en 2007. Mais en général, bon, le problème principal de cette espèce, c'est juste qu'il fait mal. Ça mord et c'est vraiment douloureux. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème de santé publique qu'il y a derrière, il fait peur, mais bon, ça reste quand même une nuisance. Alors ce qu'on a essayé de faire, donc ça c'était un peu une aventure, j'étais monté avec Andy dans la voiture, on était descendu à Portondown, pas loin de là où ils ont leur labo de sécurité 3 ou 4, où ils font leurs expériences sur les moustiques, et j'avais commencé à travailler avec Jolyon, donc, qui travaillait à la Société de protection de la santé en Angleterre, et il m'avait dit, on pense qu'il y a un lien avec le climat, en termes de l'enveloppe biologique, une espèce d'enveloppe biologique naïve. Donc, est-ce qu'on peut essayer de regarder ça? Donc, on a essayé de faire ça en collaboration. Le but du jeu, c'est de regarder un petit peu où, quelles sont les zones pour lesquelles le moustique pourrait s'étendre, en sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et aussi utiliser donc des ensembles de modèles de climat pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le futur, pour différentes échelles de temps. Et regarder aussi, ce que j'aime bien regarder, c'est toujours des modèles d'ensemble, essayer de regarder le plus d'informations, et essayer de regarder un petit peu quelles sont les incertitudes associées dans ces méthodes. À la fois sur la modélisation de la maladie, mais aussi à la fois sur la modélisation du climat, puisqu'on n'est pas dans un système déterministe. On peut changer de choix d'émission, on peut changer... Il y a plein de choses qui peuvent se passer en fait, pour le futur. Donc il faut faire toujours très attention quand on fait des scénarios pour le futur. Tout peut changer, et il y a des choses aussi qui peuvent arriver dont on n'a pas pensé. Juste dire ça. Donc, ce n'est pas la meilleure carte, mais le moustique était en général plutôt réparti sur l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Et récemment, il s'est propagé en Europe, aux US et sur quelques zones d'Afrique. Pas lié au réchauffement climatique, pas du tout, c'est un mauvais voleur. Il vole, doit voler un kilomètre, gros maximum, donc il ne va pas traverser l'océan Pacifique. Il a été introduit tout simplement par le business, la globalisation, on va dire, en grande partie par le business des pneus, le recyclage des pneus entre l'Inde et l'Europe. Donc les gens livrent des pneus, les moustiques ont pondu des œufs dans les pneus, ces œufs résistent à la sécheresse, et une fois qu'ils sont réinondés, boum, il y a repropagation des vecteurs dans la zone A. Aussi par le business de plantes, il y en a aussi qui pensent que des fleurs, donc il y a beaucoup de choses à regarder là-dessus. Mais ça a été introduit, en fait en Europe et aux US par les pneus en grande partie. Donc ça c'est la situation, comment ça s'est propagé. 97 c'était relativement restreint, plutôt basé on va dire en Italie. Ça commence à se propager, vous voyez que ça pulse un petit peu aussi dans les zones du nord en Normandie, je crois. Puis un petit peu sur l'Adriatique, et puis ça se répand surtout beaucoup sur vous voyez, l'Italie, les îles méditerranéennes, la Costa Brava un petit peu, et la côte adriatique. Donc ça c'est un peu réparti. Mais ça n'a rien à voir avec le climat, ça a été disséminé, c'est-à-dire que le moustique était là, il a été propagé. Les gens ont bougé des trucs, on passe son temps en train de voyager, les paysans, les casses, le mouvement des pneus, ont fait que le moustique s'est répandu. Alors la question sous-jacente que je voulais essayer d'adresser, c'est si... on assume une répartition, une distribution de ce moustique de manière isotrope, on va dire, sur toute la zone, quelle pourrait être une enveloppe climatique naïve, une espèce de restriction maximum. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer tout ensuite, juste après. Donc ça, c'était la situation à l'échelle européenne. Ça, c'est basé sur des données terrain. Donc c'est les entomos qui reportent à ECDC tous les 3-4 mois. Donc ça, c'est les OPS. On voyait un petit peu, donc ça s'est encore plus propagé. Il y a aussi des cas maintenant vers la mer Noire, en Russie. C'est propagé en Turquie, c'est propagé un peu partout. Et aussi au Benelux. Donc ça, c'était un modèle tout bête. Donc j'ai essayé de prendre différents modèles. Là, je n'en montre qu'un. C'est un modèle le plus simple, mais je pense qu'il est peut-être le plus robuste. Des fois, il ne faut pas trop aller chercher trop compliqué. Il faut en servir des vieilles méthodes les plus simples. On trouve souvent des résultats assez simples. C'est assez pas mal. Donc ça, c'est un papier d'un japonais qui avait retrouvé justement des isothermes annuels qui montrent différents niveaux de suitability pour le moustique, comment il pourrait survivre dans la zone. Et par-dessus ça, il y a aussi un critère d'hivernage, c'est-à-dire que si les températures d'hiver sont trop sévères, le moustique ne survit pas. Il y a aussi d'autres paramètres, comme la lumière. Par exemple, je peux vous parier que ce moustique il va avoir beaucoup de mal à survivre en plein milieu de l'Écosse, surtout pendant les périodes. Il a besoin de lumière pour être actif. Il a besoin de plein de choses, il a besoin de beaucoup de choses, mais on va dire que les hivers... Et ces isothermes, bon, ça peut couvrir le truc. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses. Donc si on regarde, quand on fait tourner ce modèle de manière dynamique d'une année sur l'autre, en se servant de données climatiques correctes, utilisées par des climatologues, et pas des trucs à 1 km² super extrapolés dont les écologues se servent, qui vendent du rêve sur l'Afrique centrale en particulier, on peut voir en fait qu'un risque naïf climatique, la distribution n'est pas trop mal par rapport à ce que je vous ai montré. Il y a aussi forcément des fausses alarmes, c'est-à-dire que le Portugal, pour le moment, on n'a pas encore trouvé le moustique au Portugal, en Galice, sur le nord d'Espagne, pareil. Et ça donne un peu une idée de où le moustique aurait pu se propager par rapport à ces hypothèses-là, en Europe. Si on regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, en prenant les mêmes choses, mais en regardant les températures, donc plus douces en hiver, on va dire, et plus chaudes en été, il peut y avoir aussi des aspects positifs du réchauffement climatique. Dans certaines zones, ça va devenir tellement sec, qu'on va se retrouver avec moins de vecteurs. moins de moustiques. Dans certaines zones, ça va devenir plus mild, plus au milieu, on va dire, et là, on va se retrouver avec plus de problèmes. Donc, ce qui montre ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que l'ouest de la France, le Benelux et certaines zones sur les Balkans aussi, ont l'air d'être devenir un petit peu plus hospitalières pour le moustique. Si on fait la même chose en se servant de modèles climatiques et en regardant un petit peu ce qui se passe en 2030-2050, donc ça c'est une moyenne d'ensemble, c'est basé sur 10 modèles régionaux. Alors c'est une chose toujours à regarder, toujours avoir beaucoup de modèles et regarder les incertitudes. Je ne détaille pas trop là, mais bon, ça avait fait un petit peu le buzz puisque vous regardez que le sud de l'Angleterre se retrouve un petit peu à avoir un signal qui émerge. Mais ça reste un risque climatique naïf. Rien ne se passera si le moustique n'est pas introduit. Donc tant que nos services de santé font attention, tout va bien. C'est ça. Alors, ça, c'était la situation en 2012, c'est quand j'ai publié le papier. Bon, il y a des gens qui m'ont rayonné un petit peu. Bon, après, c'est un système compliqué. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans octobre 2013. Alors, vous voyez, ça commence à se propager sur tout le sud-ouest de la France. Ça commence à se propager sur l'ouest, ce qui est un peu effrayant, parce qu'en voyant les cartes là, on pourrait dire que si le moustique est brassé suffisamment et disséminé, il pourrait le faire sur une grande zone qui couvre tout l'ouest de la France. Donc ça a l'air de... ça se propage un petit peu dans cette direction, ce qui est un peu rien à voir avec le climat, puisque c'est un moustique qui voyage, mais bon, il y a quand même des conditions climatiques. Donc j'avais listé une certaine liste de pays dans le papier. Entre-temps, la publication maintenant, ça a été détecté dans 2 des pays et observé ponctuellement dans 3 ou 4 autres. Donc, alors bien sûr, vous communiquez avec la presse. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais dire en particulier. On est scientifique, on essaye de faire son travail correctement, mais bon, même en travaillant, en essayant de faire les choses bien, on arrive toujours à avoir des choses comme ça. Huge agent tiger mosquitoes poised to invade UK. On dirait Godzilla ou un film vraiment effrayant. Je n'ai pas parlé du tout du pathogène, hein, puisque je parlais purement du moustique, déjà, première chose. Et bring dengue fever, bon voilà. Donc vous voyez, ils font du sensationnel, eux c'est un business, il faut faire très attention quand on communique avec eux. À leur décharge, bon, c'est le Daily Mail, hein, c'est terrible, hein, c'est un peu la poubelle, hein, c'est un peu une des poubelles des journaux britanniques. Si vous regardez les choses plus sérieuses, une journaliste américaine scientifique qui a fait un super papier dessus, en recoupant ce qui s'est passé à la fois aux US ou à l'Europe, donc là c'est quand même beaucoup mieux. On a aussi fait une vidéo un peu sur YouTube en regardant ce risque climatique naïf. Alors j'ai fait ça avant-hier, j'avais envie de regarder un petit peu, j'avais envie de refaire les cartes. Donc j'ai regardé la carte d'observation, enfin je crois l'Institut, je ne sais pas qui c'est pour qui donne ces données-là, mais ça ressemble un petit peu à la carte que donne le CDC, donc ça m'a l'air assez correct. C'est propagé pas mal sur le sud-est, le sud et un peu l'ouest. Donc je vais comparer mes différents modèles, un, celui que je démontre avant, deuxième qui est plutôt basé sur des fonctions un petit peu comme ce qu'a montré Jean-François dans sa présentation, et le modèle 3 qui est plutôt un modèle biologique basé sur à la fois la lumière, et la température. Bon, grosso modo, tous les modèles ont l'air de dire quand même que le moustique pourrait se propager sur des grandes zones. Il y a toujours des endroits comme le Massif central ou les Pyrénées ou le sillage des Alpes où je pense que quand même là, ça devrait être, il devrait pas trop y avoir de moustiques à partir de quelques hivers. C'est pour ça que toutes les zones que vous voyez ici en orange ou en jaune, peut-être que dans d'ici quelques années, elles vont rester quand même, elles vont pas passer au rouge, on va espérer. Mais je pense que ce soit un côté assez logique. Alors on fait la même chose aussi pour les US et le Canada, donc c'est ce que j'ai fait avec Nick Ogden en collaboration, ils ont essayé de faire la même chose, donc ce qu'on a fait pour l'Europe, c'est toujours sympa quand de l'autre côté de l'Atlantique on copie les Européens, c'est plutôt sympa. Et finalement en fait le modèle marche mieux finalement pour les US en termes de score, et je pense qu'il marche mieux, peut-être parce que le moustique a été introduit dans les milieux des années 80, il y a eu plus de temps pour le propager, pour qu'il se promène on va dire. Et pour qu'il soit brassé. Après, il y a aussi un gros gap entre le sud-est des États-Unis et la Californie, donc là, peut-être, c'est un petit peu plus limité, mais c'est propagé quand même pas mal sur tout le sud-est. Le modèle est vraiment pas mal. En termes de propagation pour le futur, ça reste un effet de température et une progression de migration vers le nord qui a été observée, de toute façon, sur les dernières années, déjà. Il me reste beaucoup de temps, excusez-moi. Une ou deux minutes, ok, bon, je vais peut-être passer alors la malaria. D'accord. Ok, je suis désolé. Je peux appeler la malaria à la limite. Je vais directement à la conclusion. Bon, la malaria, Jean-François en a déjà beaucoup parlé. Je vais juste montrer une ou deux cartes qui vont vous dire pas mal de choses, qui redit un peu ce que montrait Jean-François. Au début du siècle, il y a une grande portion de la planète qui était affectée par le plasmodium. Il y a différents types de plasmodium. Donc il y a le plasmodium tropical, qui est vraiment fatal, et d'autres qui sont un peu plus mild, dans les plus hautes latitudes. Et on peut voir que, donc, ça c'est le papier des gars d'Oxford, bien sûr, la malaria publié dans Nature, mais il compare un parasite contre quatre parasites, bon, c'est pas pourquoi. Mais dans l'idée, tout s'est rétracté. Puisque, bon, bien sûr, on a investi, on s'est débarrassé de la malaria. Après la guerre, hein, il y a eu des efforts internationaux, des gros financements. Donc ce que je veux dire, c'est que si on regarde un risque climatique naïf pour le pathogène, enfin, pour la transmission du plasmodium, on va se retrouver avec certaines zones. On peut voir déjà qu'en fonction de la différente méthode que vous allez modéliser, vous allez avoir des images différentes. Donc il y a des problèmes structurels, de méthode. Mais il y a aussi des zones, par exemple pour le modèle de Liverpool, qui est en, le D, là, vous voyez que toute la Mississippi Valley a l'air OK pour la transmission du palu. Ce qui est vrai, ce qui s'était passé dans le passé, qui avait été amené, le parasite avait été importé avec la négociation des esclaves, et forcément c'était propagé sur une zone qui est assez propice à son développement. Mais bien sûr, les États-Unis se sont débarrassés de la malaria, donc il n'y a plus de malaria. Ça reviendra sur mes discussions de fin. Je reviendrai là-dessus plus tard. Sur le futur, donc comme disait Jean-François, il y a des effets un peu non linéaires. En intégrant tout ça, avec tous ces modèles, donc là ça prend en compte 5 modèles de maladies, mais aussi 5 modèles de climat, différents scénarios, différentes tranches de temps, on a essayé de regarder un petit peu comment ça se propageait. Une grosse matrice ici qui a été dérivée d'un travail d'un gars du Met Office, qui a fait un super boulot, qui permet de regarder un petit peu comment le signal est cohérent à l'intérieur de votre super ensemble. À savoir que s'il y a beaucoup de bruit, on met tout en transparent. Si c'est plus certain, dans la barre d'erreur, on va plus à droite. En ce cas-là, on voit que pour le scénario le plus extrême, pour la fin du siècle, il y a des zones qui ont l'air de devenir plus hospitalières pour la transmission du palu, en général les zones d'altitude. Vous avez là vous avez le plateau d'Éthiopie, l'Angola au milieu, certaines zones au Kenya, etc., etc. Par contre, pour l'Afrique de l'Ouest, là où il commence à faire vraiment trop chaud, il y a une diminution du risque. Donc il va y avoir des effets non linéaires. Dire il va faire plus chaud, on va avoir plus de palus, ça dépend où on regarde. Et ça dépend aussi, il faut prendre en compte toutes ces incertitudes ici. J'ai quand même des barres d'erreur assez lourdes là-dessus. Après, on peut calculer aussi, en regarder les scénarios de l'UN, upscaler ça, regarder combien de gens pourraient être naïvement au risque, mais bon, je ne vais pas trop en parler. Bon, ça a été publié aussi, c'était sorti dans la presse. Bon, c'était un peu optimiste dessus. Et quelques semaines plus tard, il y a le papier de Mercedes Pasquale qui était sorti. Et ça, c'est basé sur des observations. C'est pas basé sur des modèles. Bon, bien sûr, il y a d'autres paramètres. Bon, je vais aller directement à la conclusion. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves que le climat dans le background aide des choses, aide la transmission, aide pas mal de choses. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai revu pas mal de papiers, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des trucs, même des trucs en Russie. C'est assez étonnant. Donc il y a des choses qui se propagent, surtout dans les zones de montagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. La Banque mondiale a financé un gars au Népal à hauteur de je ne sais pas combien de millions pour aller piéger des moustiques et des culicoïdis, plein de choses. Donc s'ils le font, c'est qu'il y a une raison derrière, je pense. Ils ne vont pas donner de l'argent pour rien. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de paramètres, comme Jean-François l'a bien montré. C'est ranké 10, le climat, dans l'importance. Dans les bouquins classiques d'épidémio, c'est ranké 7, 8, ouais, 6, 7, par là, c'est pareil. Ça ne reste pas la même chose. On est dans un monde qui est quand même beaucoup plus, qui va être beaucoup plus lourd en termes de population, plus de voyages, etc. Ça va forcément aussi augmenter le risque. Mais le climat, quand même, reste quelque chose d'important dans le background, je pense. Je pense que ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est vraiment nul. Ça peut être, désolé, ça peut être vachement amélioré. Par exemple, un moustique, ça n'expérience pas le climat. Un moustique, c'est comme nous, ça expérience la météo toutes les minutes, toutes les heures. Il y a beaucoup de résultats, par exemple, de Penn State aux US, je pense en particulier, où ils ont montré que l'amplitude diurne, qui est une chose pour dans les modèles climat, on peut regarder, mais ça a l'air de jouer beaucoup. Et en plus, c'est un paramètre qui a l'air d'être affecté par le changement climatique pour certaines raisons. Donc ça, c'est des choses à regarder, bien sûr. Les choses dont il y a les modèles, il y a beaucoup de choses à faire pour les améliorer au niveau des modèles de maladies. Je pense que si on veut avoir une idée plus claire de ce qui se passe, il faut faire quand même plusieurs types de simulations en utilisant différentes méthodes, différents modèles de climat, différents scénarios en population et différents scénarios en changement climatique, si on veut avoir une idée complète du système. Et même, on ratera quand même une énorme portion, par définition. Je pense qu'aussi, des fois, il faut s'arrêter pour... Et tout le monde essaye de faire un peu la course avec mon modèle qui a un ROC à 0,9 ou 1, ou des corrélations à 1, et c'est le meilleur modèle de la Terre, etc., pour ma petite application dans mon coin-coin. C'est pas mal. Mais il y a des fois, on peut aussi, par exemple pour Albopictus, je pense que c'est clair, ça ne veut pas dire que votre modèle à l'heure actuelle est mauvais, ça ne veut pas dire que le moustique va se propager plus tard dans une espèce d'enveloppe biologique qui colle avec certaines contraintes climatiques. Donc à des fois, j'en parlais avec Nick, on s'était pas mal bataillé là-dessus, il essayait d'avoir le meilleur modèle avec le critère qui marchait le mieux, mais je pense qu'il faut attendre quand même quelques décennies avant de regarder quel est le modèle qui performe le mieux, je pense, puisque il y a d'autres paramètres climatiques qui vont jouer là-dessus. Bon, bien sûr, tout ça, ça peut marcher qu'en ayant une multidisciplinarité, une interdisciplinarité, je pense que ce que vous faites ici avec le GIS, puisque bon, on ne peut pas tout savoir, donc on a besoin d'entomos, d'épidémios, des gens qui sont spécialistes de la santé humaine ou animale, hein, des climatologistes et des météorologistes, et scientifiques en sciences humaines aussi, et des gens qui sont à l'interface. On veut vraiment faire un travail correct, c'est le seul moyen, je pense. Parce qu'on oublie toujours quelque chose. Et ça, je pense que Serge va en parler, va en parler dans son talk. Ça fait deux. Et pour finir, je pense qu'on pourrait rêver de ça. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être en cours, il y a les Allemands qui ont commencé. C'est faire des espèces de... Ce qui a été fait pour l'IPCC, à savoir CEMIPFAG, on compare tous les modèles de climat, on compare tout. On pourrait faire la même chose pour les impacts, à la fois pour l'agriculture. Oui, les Allemands, j'en ai fait partie, le papier était pour l'impact santé. Mais ça a commencé, mais peut-être à l'échelle nationale, internationale, c'est des choses qui devraient être faites, puisque bon, il y a déjà l'initiative ESCRIM, qui est un petit peu faire le GIEC, mais à l'échelle nationale. On pourrait faire la même chose pour les études d'impact aussi, je pense, ça pourrait être assez utile. Voilà. Et je vous remercie.
Bonjour Robert Rotard. Donc j'aimerais que tu nous en dises un tout petit peu plus sur la façon dont on construit un modèle de suitability. Là. Ça ne me paraît pas du tout évident, surtout que... alors, donc quelles sont les données qui sont utilisées, quelles sont les hypothèses? Et là, on est quand même beaucoup dans l'extrapolation, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données qui sont des données tropicales, essentiellement, pour extrapoler des suitability climatiques ailleurs. Hein. Donc, quelle confiance tu as là-dedans et voilà.
Ah, c'est compliqué, ouais. J'essaie de prendre un peu tout, mais si on revient aux trois modèles là, que j'ai utilisés, que j'ai montrés pour la France. Le premier, en fait, c'est un japonais. Donc, c'était développé pour le Japon. Et ça marche bien aussi pour les US. Hein. Ça a été utilisé par d'autres pour les USA. C'est basé sur des isothermes. L'OMS, souvent, se sert de ça. Si vous regardez même les vieux papiers de Reiter... qui n'aime pas du tout l'impact du climat et qui en sait assez... ouais. Je me sers, en fait, je le fais sur une base interannuelle et je remoyenne ensuite. Donc je fais toujours des calculs dynamiques de risque, mais je refais la moyennage et les statistiques après. C'est-à-dire je tourne le modèle au pas du mois, en général, et au mieux au jour. Voilà, au mieux au jour, mais bon, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes de toute façon. Le premier, c'est un modèle japonais. Deuxième, c'est un modèle développé par CDC, qui sont des espèces de fonctions optimales en fonction des températures d'hiver, des températures d'été et des précipitations annuelles. Ça, c'est simple. Et le troisième, un peu plus compliqué, puisque ça prend en compte aussi l'insolation. Il faut qu'il y ait un certain taux d'insolation, sinon le moustique rentre en diapause et ne fait rien. Combiné avec des températures. Et aussi combiné avec un masque d'hivernage. Il y a toujours un masque d'hivernage qui est calculé sur une période. Donc ça reste très simple. Pour la malaria, c'est plus compliqué. Les modèles que j'ai utilisés, par exemple, ici, bon, je ne suis pas trop revenu. Le modèle en haut à gauche, qui est un vieux modèle MARA, ça a été développé par un projet en Afrique. Ça marche pas mal pour l'Afrique, mais bon, c'est un peu poussé de l'extrapoler. Le modèle LMM est un peu plus dynamique, lui. Il est vraiment codé pour certains types de mécanismes, on va dire. Donc c'est plus dynamique. Donc ça, c'est peut-être un peu plus extrapolable. Le modèle de PIM, qui avait été utilisé dans le premier rapport du GIEC, je pense... C'est assez simple aussi, c'est une espèce de transmission qui dépend des précipitations, des températures aussi. Le modèle Vectree d'Adrian, qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué, lui se sert de données de population, il a des données grillées, densité, des schémas de surface, une espèce de, il a un truc un peu plus compliqué au niveau dynamique. Et le modèle des Suédois, c'est un modèle un peu plus statistique, donc il servait à la fois du GDP, donc il y avait un peu un aspect économique et un aspect climat dedans. Donc je pense que c'est les choses qu'il faudrait qu'on fasse. Après les modèles, comme je disais, les modèles du futur, il faudra regarder les choses un peu plus rapides, puisque le moustique ne va pas expérimenter, il ne va pas vivre le janvier moyen. Il va vivre. Donc je pense que le lien avec les extrêmes, en regardant le nombre de cold snap, par exemple, ou le nombre de périodes froides... Voilà. Excusez-moi. Ouais, je pense que
oui.
Il y a
oui. Merci pour ton exposé très clair et puis la prudence dont tu fais preuve. Je trouve tout ça toujours très intéressant de la part d'un scientifique. Donc, ce que tu nous as présenté, donc, c'est du modèle de distribution spatiale. C'est déjà très bien, mais d'insectes. Or, l'insecte ne fait pas le moustique vecteur, et le moustique vecteur ne fait pas obligatoirement non plus la maladie humaine ou animale. Donc, tu l'as bien montré, généralement, quand on discute avec les politiques ou quand on discute avec les journalistes, je suis pas en train de les mettre dans le même camp, mais ils vont vite faire la confusion entre une enveloppe spatiale d'un moustique et puis la distribution de l'agent infectieux. Est-ce que tu t'es amusé à rajouter, par exemple, du virus de Rift Valley et de voir son expansion en tenant compte de l'interaction donc.
Pour le moment, pour la malaria, oui, parce que tout est pris en compte. Avant tous ces modèles, il y a tout, hein, à la fois, il y a toute la paramétrisation. Mais pour le chikou et la dengue, c'est un projet. C'est un projet que je suis en train de monter. Là. Il y a des Allemands qui ont travaillé dessus, un petit peu, je crois. Il y a des choses. J'ai vu quelques papiers dessus. Je vais tester les méthodes, on va regarder. Mais bon, c'est toujours ça sera très dépendant du nombre de voyageurs qui vont revenir. Tout simplement, ça va être très dépendant du nombre de voyageurs qui vont revenir infectés et qui vont aller ou pas à l'hôpital en revenant de leur voyage dans les tropiques et dans les dom-toms, tout simplement. Aussi. Oui, oui. À un moment T, avec plein de gens qui reviennent infectés, si le vecteur est là et qu'on commence à avoir de la transmission autochtone, là ça va devenir un peu plus effrayant. Mais bon.
Oui, Jean-François Toussaint, merci. Sur un peu la suite de la question de Jean-François, est-ce que sur ces modèles-là, dont on voit qu'ils sont assez progressifs, et donc avec 2-3 paramètres qui, augmentant progressivement en précipitation ou en température, vous amènent à des zones géographiques de plus en plus étendues, comment vous tenez compte d'interférences plus brutales et donc de points de bascule, de points de rupture qui, à un moment donné, changeraient de façon importante soit la répartition, soit effectivement l'infectivité du vecteur pour le côté maladie.
Je ne sais pas si c'est vraiment pris en compte, mais c'est pris en compte de manière dynamique, puisque le risque, je le calcule d'une année sur l'autre. Enfin, surtout quand on fait l'espèce de hindcast, comme ça, quand on regarde un petit peu le risque dans le passé, et qu'on essaie de valider ça par rapport à une base de données, il y a des endroits où le risque s'accroît, mais il y a aussi des endroits où ça se contracte. Si vous regardez là, les cartes que j'avais fait pour Albopictus, sur le sud de l'Europe, ça devient tellement sec dans les simulations climat futur que le moustique n'a pas l'air de pouvoir survivre là, dans un climat futur. Donc c'est pas forcément, il y a une contraction où... c'est pris en compte, si vous voulez, d'un certain côté. C'est fait de manière dynamique, c'est-à-dire que le modèle, il est tourné du début jusqu'à la fin, et chaque année, il y a une sortie, si vous voulez. Donc je regarde un petit peu, donc ça prend en compte, si vous voulez, les ruptures, mais purement dans les modèles climat, ou dans les observations climatiques, si vous voulez. Mais rien à l'échelle très rapide, pour le moment, on n'a pas des trucs, à part pour les modèles de malaria un peu plus évolués, on n'a pas de trucs à l'échelle... À l'échelle de l'heure ou de 2-3 heures, on regarde des choses plutôt à l'échelle journalière au grand maximum.